Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin nous allons revenir sur la mobilisation historique d'hier en France. Hier, le peuple de France, debout, uni, dans toute sa diversité pour défendre évidemment les principes de la démocratie et de la République. 4 millions de personnes pour dire non au terrorisme, non à l'intolérance. Alors que vous inspire l'ampleur de cette mobilisation? Quelle leçon faut-il tirer finalement de cette unité nationale? Quel message, vous qui nous écoutez en ce moment, en France, à l'étranger, souhaitez-vous adresser ce matin, au lendemain de tous ces rassemblements? Et dites-nous, et on lancera le débat évidemment sur cette question cruciale, comment les démocraties peuvent combattre l'islamisme radical? Quelles doivent être maintenant les réponses, justement, des démocraties? On en parlera, nous vous donnerons la parole dans une trentaine de minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de cette émission. Depuis ce matin, 6h, RFI est en édition spéciale. Après les experts, les invités, les analyses, les correspondants, les envoyés spéciaux, RFI vous donne la parole, donc dans 30 minutes. Et dans une heure, nous continuerons à vous parler de cette actualité avec Claire Hédon, Priorité Santé. Bonjour Claire.
Bonjour Juan.
Avec tout à l'heure, un gros plan sur les traumatismes que provoquent les actes terroristes.
Dans le monde entier, hein, bien sûr. Hein. Quel est l'impact de ces attentats sur le psychisme collectif? Quels sont les traumatismes qui sont générés par ces actes terroristes commis dans le monde? On l'a vu au Nigeria ce week-end, le Liban, le Nigeria ont aussi été largement concernés. Je donnerai la parole à un psychiatre français, mais on aura aussi au téléphone des psychiatres au Liban, en Algérie, au Mali, au Nigeria. Un téléphone, si vous aussi, vous avez été victime justement de ce terrorisme, 33 1 84 22 75 75.
Voilà, vos témoignages, donc Priorité Santé, ce sera dans une heure, à tout à l'heure, Claire Hédon. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons sur notre antenne. Et ce matin, une question concernant les frères Kouachi. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Brazzaville. Vous êtes au Congo. On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai suivi avec Charlie. J'aimerais cependant se poser deux questions. La première, comment se fait-il que un terroriste aussi dangereux fiché par les services secrets américains?
Oui. Ah. La ligne est coupée avec Brazzaville. Décidément, c'est pas de chance. Vous nous demandiez comment les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo pouvaient figurer sur la liste noire américaine du terrorisme et ne pas être sous la surveillance des services de renseignement français. On va essayer d'y voir plus clair et de savoir effectivement les frères Kouachi étaient surveillés par les services de renseignement français. Ils l'étaient, je vous le dis tout de suite, avant de donner la parole à notre expert, et ils l'étaient jusqu'au en juin dernier. Éric Dénessé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. C'est vrai que les frères Kouachi étaient inscrits sur la liste noire américaine du terrorisme. Ils étaient aussi inscrits sur la liste des passagers indésirables sur les vols intérieurs ou à destination des États-Unis. C'est une liste qui a été mise en place après les attentats du 11 septembre 2001. Évidemment, Éric Dénessé, les autorités américaines avaient alerté leurs collègues français.
Écoutez, c'est difficile de le savoir en l'état actuel des choses, mais je crois qu'il faut rappeler plusieurs éléments. Les Américains ont absolument tout et n'importe qui sur leur fameuse liste, puisqu'ils ont mis un système d'écoute en place qui fait que dès que deux individus prononcent le mot djihad, c'est tout juste s'ils ne sont pas sur la liste des terroristes. En plus, il y a eu énormément d'erreurs avec le système américain. On arrête des nouveau-nés au moment de monter dans l'avion. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, les Américains avaient passé une information selon laquelle un ancien officier de la DGSE avait rejoint l'État islamique. Donc, leur système est démoniaque et démesuré, et ils génèrent énormément d'erreurs. Alors, ça veut dire que peut-être ils ont transféré l'information en français, peut-être pas, et en plus, même s'ils l'ont transféré, nous vérifions deux fois avant d'accorder du crédit à certaines informations américaines.
Alors, il faut préciser quand même que cette liste noire américaine du terrorisme contient plus d'un million de noms. Toutes les personnes soupçonnées d'être des terroristes y figurent, et essentiellement des étrangers, puisque cette liste ne contiendrait, dit-on, que seulement 20 000 Américains. Un mot tout de même sur le parcours des frères Kouachi. Est-ce que les services de renseignement, selon vous, Éric Denessé, étaient au courant de tout ce parcours avant la tragédie de la semaine dernière ?
Oui, bien sûr, parce qu'ils étaient surveillés depuis qu'ils étaient apparus dans l'histoire du gang des Buttes Chaumont. Nous avons aussi en face de nous des terroristes qui, au-delà des demeurés mentaux, sont quand même parfois astucieux. Et un certain nombre d'entre eux, Mera et les frères Kouachi le montrent, ont compris comment fonctionnait la police, donc se tiennent à carreau pendant plusieurs mois. Et une fois qu'ils voient la surveillance les concernant s'alléger, eh bien, ils décident de repasser à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement imprévisible, et c'est très très difficile de lutter contre ça, même si on avait des effectifs deux fois supérieurs.
Ils étaient surveillés, dit-on, jusqu'en juin dernier.
Oui, absolument. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs formes de surveillance. Il y a la surveillance électronique, il y a la surveillance physique, il y a le contrôle. Mais à partir du moment où on allège cette surveillance, et puis qu'à côté, sans que le public le sache, il y a parfois des menaces beaucoup plus importantes qui émergent, sur lesquelles les moyens sont concentrés, eh bien, ces individus passent entre les mailles du filet.
Benjamin, de retour, donc, en ligne de Brazzaville, vous aviez une autre question?
Oui, la deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que les informations sont échangées entre les pays membres de l'OTAN. Je fais allusion particulièrement à la France et aux États-Unis pour ce cas, et pour les questions de lutte antiterroriste.
Comment s'opère l'échange d'informations entre les différents services de renseignement, Éric Denessé?
Alors, on a beaucoup d'échanges d'informations de service à service, évidemment, mais chaque cas est particulier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations sur le terrorisme international, des réunions dans lesquelles, par exemple, la DGSE, la NSA ou la CIA vont échanger un certain nombre d'analyses et de points de vue sur ce qui se passe en Irak du Nord, sur les camps d'entraînement dans tel ou tel pays. En revanche, les Américains ne peuvent pas vraiment nous aider sur ce qui se passe dans nos banlieues. De temps en temps, une petite information peut nous être utile quand ils aperçoivent que des combattants français se trouvent en Syrie et viennent de quitter le territoire, mais c'est assez rare, parce qu'il faut dire qu'il y a très peu de gens qui quittent les territoires de djihad. L'État islamique, notamment, empêche tous les étrangers de rentrer, parce qu'ils utilisent beaucoup dans ces troupes de combat, et comme martyrs. Donc, même si la coopération fonctionne très correctement, ce n'est pas tellement par des informations internationales que nous pouvons savoir ce qui se passe dans nos banlieues.
Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Éric Denessé, d'avoir répondu à Benjamin de Brazzaville. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. 33 9 693 693 70, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va s'intéresser à l'élection présidentielle américaine aux États-Unis. Vous me direz, mais c'est dans un an, et on en parle déjà. Il faut dire qu'à Washington, l'élection de 2016 est déjà dans toutes les têtes. Zampa, bonjour.
Bonjour Juan,
bonjour à tous. Vous nous appelez du Burkina Faso, vous êtes exactement à Fadingourma, c'est à environ 200 km à l'est de Ouagadougou.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
Au fait, la semaine dernière, j'ai appris que M. Bush Diop a dévoilé ses intentions d'oublier les présidentielles américaines de 2016. À cet effet, j'ai deux questions. En plus d'être membre de la famille Bush, quel est le parcours politique de M. Jeb Bush? Deuxième question. Quels sont ses appuis et soutiens dans le camp républicain? Et quels sont ses atouts et ses faiblesses pour les primaires?
Y aura-t-il un troisième Bush à la Maison Blanche? Bonjour Arim Lipold.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre.
Bonjour Sampa, bonjour à tous.
Journaliste au service international d'RFI, après son père et son frère cadet, Jeb Bush apparaît aujourd'hui, pour l'instant, hein, comme le favori des primaires républicaines. Alors, faut d'abord signaler qu'il n'est pas encore officiellement candidat.
Non, il a lancé tous ses rumeurs avec une phrase postée sur son compte Facebook. Juan, j'ai décidé d'explorer activement vivement la possibilité d'être candidat à la présidence des États-Unis.
Voilà. Donc, quel est le parcours de Jeb Bush?
En fait, le parcours, Juan, il se résume très rapidement. Il a été pendant 4 ans, 2 mandats, gouverneur de Floride. Point final. Point final, voilà. Il a embrassé assez tôt la carrière, enfin le monde politique. Il a travaillé à côté de son père qui était dans les années 80, vous savez, vice-président du président Ronald Reagan. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire connaissance du monde politique, de la vie politique. Et il a ensuite décidé de se porter candidat au gouverneur de Floride. Il a échoué une fois. Et il a été élu pour la première fois en 1998. Et depuis 8 ans, depuis 2006, il n'est sans aucun mandat politique. Il dirige actuellement une fondation qui a pour but de réformer le système éducatif.
Ouais. Alors il laisse un bon souvenir, il faut le dire, en Floride. Il a cette particularité de s'intéresser aux questions d'éducation et également aux questions d'immigration.
Absolument.
Quels sont ses atouts? Est-ce que justement ces deux thématiques qui lui tiennent à cœur peuvent être un atout pour lui?
Oui, absolument, vous avez raison. Il est bilingue déjà, il parle couramment l'anglais et espagnol. Il est marié à une Mexicaine parce qu'elle étudie, il a enseigné au Mexique. Donc c'est un atout effectivement pour séduire l'électorat latino, et on sait combien cet électorat est important pour faire élire un président aux États-Unis. C'est un atout, et puis il a aussi changé sur la question du mariage gay. Il a été fermement opposé au mariage gay, et puis depuis quelques semaines, depuis le mariage gay est devenu légal dans son état, la Floride, donc il a un peu évolué sur ce point-là. Certains disent que c'est un modéré, ce qui est un atout quand il doit séduire en fait les fameux swing voters, vous savez les électeurs qui votent tantôt républicains, tantôt démocrates. Mais c'est aussi un handicap parce que pour gagner les primaires, eh bien les primaires républicains aux États-Unis se gagnent à droite, donc il faut droitiser son discours, et avec sa position un peu modérée, un peu trop proche des milieux d'immigration, il risque de ne pas se faire beaucoup d'amis au sein de l'aile droite de son parti, et notamment du fameux Tea Party.
Tea Party. Le fait d'être un Bush, c'est un atout ou un inconvénient selon vous?
C'est un atout et c'est un handicap, parce que c'est un atout quand il s'agit de récolter de l'argent, c'est quand même le nerf de guerre.
Des fonds pour financer la campagne électorale.
Il a déjà créé 2 PAC, des comités d'action politique, vous savez, des fondations qui lui permettent de récolter des fonds. Donc ça, c'est un atout. Évidemment, il bénéficie de tous les réseaux de sa famille, des Bush, de son père président et de son frère qui était président également. Et c'est un handicap parce que évidemment, beaucoup d'Américains, y compris sa propre mère, qui ne semble pas très enthousiaste à l'idée de voir un deuxième fils à la présidence des États-Unis, se disent, mais est-ce que 3 Bush, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on veut vraiment avoir une nouvelle dynastie après les Kennedy aux États-Unis?
On suivra ça en tout cas dans les prochains mois, mais pour l'instant, d'après les sondages, il est fort probable que l'année prochaine, le duel opposera une Clinton pour être plus précis, Hillary et un Bush, Jeb Bush. Oui. On suivra ça évidemment.
Et les primaires républicaines commencent dans justement un an, le 18 février.
Dans un an. Merci beaucoup Arim Lipol, de bonnes journées en pas. Merci d'écouter RFI au Burkina Faso où il est 8h24. D'autres questions à la rédaction sur un tout autre sujet. On va s'intéresser à Madagascar et notamment à l'ancien président Marc Ravalomanana. Bonjour Jonas.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI.
Vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo. On vous écoute.
Effectivement, je voudrais d'abord rendre un hommage au peuple français et particulièrement au staff de Charlie Hebdo pour ce qui s'est passé la semaine passée en France. Alors, j'ai 2 petites questions sur l'île de Madagascar. Et la première est celle-ci. Quelles sont les craintes du gouvernement par rapport à la présence de l'ex-président Marc Ravalomanana sur le sol malgache?
Oui, surtout que le président Marc Ravalomanana, depuis son retour d'exil, est en résidence. Il est assigné à résidence depuis le mois d'octobre dernier. Et il est encore, à l'heure actuelle, toujours en résidence surveillée. Avec nous, pour essayer d'y voir plus clair sur cette situation, Marie Audran, la correspondante d'RFI à Madagascar. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Comment expliquer la présence de Marc Ravalomanane assigné à résidence depuis son retour d'exil, depuis maintenant 4 mois? Quelles craintes? Quelles sont les craintes du gouvernement?
Alors, il faut rappeler d'abord que quand Marc Ravalomanane est rentré d'exil au mois d'octobre, la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, c'est de convoquer la presse. Et lors de cette conférence de presse, il a tenu un discours jugé alors provocateur. Il a remis en cause la légitimité des autorités actuelles et sans appeler explicitement au soulèvement, il a affirmé que maintenant qu'il était là, le peuple savait ce qu'il avait à faire. Et puis alors, 2 heures plus tard, il a été arrêté. Donc la crainte première, c'est qu'il agite les foules, qu'il joue les troubles faites dans un moment où la stabilité politique est encore très fragile et la situation économique et sociale est aussi encore très tendue. L'autre crainte, qui est la raison officielle de sa mise en résidence surveillée, c'est sa propre sécurité. Et il est raisonnable en effet de penser que Marc Ravalomanane garde beaucoup d'ennemis 5 ans après son renversement et que certains préféreraient l'éliminer plutôt que de le voir revenir jouer un rôle quelconque sur la scène politique ou économique du pays.
Ouais. Vous aviez une autre question, Jonas? Jonas, à Goma?
De quel soutien bénéficie M. Ravalomanane à l'extérieur du pays, mais aussi à l'intérieur du pays, et quelles sont ses capacités de nuisance aux institutions du pays?
De quel soutien bénéficie l'ancien président Mario Draghi?
Alors, à l'intérieur du pays, les dernières élections ont montré qu'il est resté très populaire sur les hauts plateaux, c'est-à-dire dans l'intérieur des terres, les régions les plus peuplées, y compris dans la capitale. À Antananarivo, son candidat à la présidentielle était arrivé en tête, et c'est un atout important d'avoir avec soi la capitale. Il faut néanmoins relativiser cette popularité. Marc Ravalomanane n'est plus la figure charismatique qu'il a pu être par le passé. Son retour d'exil n'a pas provoqué d'élan d'enthousiasme particulier, et quand il a été arrêté et que sa femme a appelé à manifester, il y a eu très peu de monde dans la rue. Alors, quant à son soutien à l'extérieur, les États-Unis et les pays de la SADC, comme l'Afrique du Sud, ont toujours insisté pour qu'il puisse rentrer d'exil. Ils l'ont soutenu lorsqu'il a mené certaines démarches. Aujourd'hui, ce que ses partenaires recherchent surtout, c'est le retour à l'ordre constitutionnel et la stabilité politique. Et c'est pour cela qu'ils soutiennent d'abord le président de la République élu l'an dernier, Eraldo Narmampian.
À suivre donc. Vous souhaitez réagir à cette actualité? N'hésitez pas, le vendredi, c'est la libre antenne, vous commentez les sujets de votre choix. Merci Marie Audran, bonne journée à Antananarivo et on remercie Jonas qui nous appelait de Goma. Il nous reste 3 minutes, le temps de prendre une dernière question au standard. Bonjour à Babacar.
Oui, bonjour, Wang Gomez, je salue 45 millions d'auditeurs à travers le monde.
Ben, merci de les saluer. Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad et vous avez une question concernant le blocage de Gmail en Chine.
Ok, oui, oui, à travers votre honte, la fois dernière, j'ai appris les autorités ont bloqué l'accès en Chine à la messagerie des Gmail. À ce sujet, j'ai deux questions. La première, je voudrais simplement savoir quelle est la cause de ce blocage. La seconde question, pourquoi une telle durcissement et la censure en Chine?
Alors, durcissement de la censure, est-ce une censure délibérée des autorités chinoises ou plutôt une panne? On va essayer d'y voir plus clair avec Séverine Arsène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Hong Kong, chercheuse au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Vous êtes une spécialiste d'Internet en Chine. Est-ce une panne ou une censure, ce qui arrive à Gmail, la messagerie électronique de Google, depuis maintenant plus de 2 semaines?
Alors, on peut supposer que c'est plutôt de la censure, parce que du côté de Google, on confirme qu'il ne s'agit absolument pas d'une panne et que tout va bien.
Et votre sentiment personnel, vous qui êtes une spécialiste d'Internet en Chine?
Oui, ça correspond tout à fait à la situation de Google depuis déjà très longtemps en Chine, en fait. Il s'agit seulement d'un renforcement et d'une mesure qui était déjà mise en place depuis longtemps en ce qui concernait tous les autres services de Google. Donc YouTube, par exemple, est bloqué depuis très longtemps. Le moteur de recherche lui-même a connu des difficultés, donc Google a fini par décider de le retirer du territoire chinois en renvoyant vers sa plateforme de Hong Kong. Et Gmail était déjà largement bloqué pour ce qui était de consulter ses emails sur Internet. On ne pouvait déjà plus que les rapatrier sur son ordinateur avant de pouvoir les consulter.
Il s'agit donc d'une reprise en main de la gouvernance d'Internet en Chine. Merci de nous avoir éclairé rapidement. C'était succinct, mais au moins c'était clair. Séverine Arsène, bonne fin de journée à Hong Kong. Reste avec nous, l'info arrive sur RFI.